Pluriel Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Voilà, merci Bernard. Bon, Bernard, il revient d'une longue convalescence. On va l'excuser comme ça. Bonsoir Bernard, hein, t'as le droit de dire bonsoir quand même. Je t'entends pas parce que t'as pas mis les retours casque dans le studio. On t'entend pas ce que tu dis. Non, on n'entend toujours pas, mon petit Bernard.
Allô ?
Voilà, ah, on va y arriver.
Oui. Bon, ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à notre invité.
Et bonjour Bernard.
Je crois qu'il va y avoir du sport ce soir.
Ben oui, c'est le cas de le dire. Donc, effectivement, il va y avoir du sport ce soir parce que, ben, tout simplement, comme annoncé, je reçois Étienne Rioux, qui est président de l'association Cargo.
Bonsoir.
Bonsoir, Étienne. Et donc, Cargo, ben, c'est une association qu'on connaît déjà sur Pluriel Gay, puisqu'on a déjà reçu des représentants de l'association. On a aussi eu l'occasion de parler du sport autrement, avec des personnalités qui sont impliquées justement dans le sport LGBT, par exemple, ou qui étudient toute forme de discrimination dans le sport et les formes alternatives de faire du sport, je dirais. Je pense notamment à notre ami Philippe Yotard, qui est souvent venu ici, pour nous parler donc de ce sujet. Et en l'occurrence, Cargo, donc pourquoi Cargo ce soir spécifiquement? C'est parce que tous les deux ans revient à Lyon un événement sportif qui s'appelle le Tigali, dont vous êtes, Cargo, les initiateurs et les organisateurs.
C'est ça.
Jusque-là, tout va bien.
Jusque-là, c'est ça.
Donc... Bon. Ça va, je me suis pas trompé. Alors du coup, Cargo, enfin on va reparler un petit peu de l'association Cargo, même si nos auditeurs connaissent un peu, nos auditeurs, nos auditrices, mais peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui n'en ont pas encore entendu parler. Donc Cargo, déjà, on va resituer, c'est donc une association sportive.
Oui.
Une association sportive dont la spécificité est d'être, d'ailleurs Cargo signifie Cercle Associatif Rhône-Alpin Gay Omnisport, on dira que c'est une association LGBT de sport. De façon plus
globalement, oui,
plus c'est étendue que la simple dénomination.
C'est gay. Ouvert à tout le monde. Il y a 15 ans, quand ça a été créé, c'était essentiellement un groupe gay,
ouais,
et lesbien. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Heureusement,
ouais,
ça se déghettoise.
Ouais.
Mais il y a encore besoin quand même de certaines structures accueillantes pour les personnes LGBT si elles veulent pratiquer du sport confortablement, on va dire.
Oui, parce qu'en en fait, la naissance du sport LGBT, même si pour beaucoup contestable l'idée de sport LGBT, pour certains, on comprend que exercer une activité sportive dans un cadre traditionnel, quand on est une personne qui décide, enfin qui veut en tout cas ne pas laisser au placard, c'est le cas de le dire, sa sexualité, ses affinités, ses sentiments, etc., c'est difficile.
C'est difficile. Ça reste dans le sport qui est quand même on va dire un secteur de divertissement où l'homophobie est relativement exposée, on va dire. Le sport LGBT permet justement d'offrir un cadre à des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur homosexualité et qui ont envie de le vivre normalement.
Ouais.
Donc voilà.
Ouais. Alors après, il est certain que quand on parle de sport et d'homophobie, on pense plutôt à certains sports qu'à d'autres sports. Alors ça, c'est peut-être un petit peu des stéréotypes. Néanmoins, c'est vrai, quand on pense par exemple aux supporters de football qui ont souvent des noms, des injures.
C'est une question de visibilité, parce que le foot est très visible. Le foot est très visible. Il y a des sports qui sont très visibles, donc forcément les débordements de certains supporters. Qui n'ont pas forcément la tête très construite pour ne pas déborder, on va dire, simplement, mais c'est ça qui se voit. Dans tous les sports, on retrouve des comportements qui sont désagréables à l'endroit des homos.
Ouais.
Voilà, Philippe Yotard, qui est un expert en la matière, a dû en faire des dessins beaucoup plus précis que moi au niveau sociologique, mais aujourd'hui... Je dirais que la virilité, le corps, tout ça, c'est quelque chose qui dérange dès qu'il y a de l'homosexualité au milieu.
Oui, parce que le sport reste associé au virilisme, en fait. Les vertus sportives sont des vertus masculines, dit-on.
Non, parce qu'il y a quand même du sport féminin.
Voilà.
Heureusement, même non-LGBT, où les vertus féminines sont... Et la performance sportive, peu importe quelles vertus.
Seulement, à l'inverse, il existe une même discrimination vis-à-vis des sportives féminines, que ce soit dans le foot ou dans le tennis. à juste titre ou pas d'ailleurs, comme quoi justement les femmes lesbiennes étant plus masculines sont plus destinées par exemple que de les femmes habituellement à faire du sport. Souvent, moi j'ai souvent entendu dire bah, les équipes de foot en général c'est composé par des filles lesbiennes, ou il y a beaucoup de femmes lesbiennes qui, dans le tennis il y a beaucoup de femmes qui sont homo, etc., etc. C'est un peu le cliché inverse quoi, mais on reste toujours dans des rapports très genrés en fait. Le sport c'est la masculinité, la force virile, et du coup les stéréotypes étant soi-disant inversés dans l'homosexualité, les hommes étant considérés comme plus féminins, les femmes plus masculines. Voilà, c'est l'idée.
Je ne sais pas si c'est une généralité, parce que je n'ai pas vraiment d'expertise sur le sujet, et vraiment une analyse très très approfondie de la problématique au niveau sociologique et sociétal, mais les femmes qui réussissent dans le sport sont souvent des femmes très affirmées, et donc celles qui sont homosexuelles s'affirment dans leur homosexualité, plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Ça a été, il y a eu plusieurs exemples de grandes sportives internationales et même françaises, alors que chez, dans le sport masculin, c'est pas forcément une force de personnalité d'assumer son homosexualité.
Oui. Dans le sport, de faiblesse. Voilà. L'homosexualité est assimilée à de la faiblesse.
Voilà, on se fait vite. Enfin, un nul, c'est une tapette, quoi. Parce voilà. Que faible. Non, c'est pas comme ça que fonctionne la vie.
Voilà.
Voilà. Et il y a des gens très efféminés qui sont extrêmement forts en sport. Je vais prendre juste l'exemple du badminton où les Asiatiques sont très forts. Et dans des grands tournois internationaux, il y a des gens qui sont des anciens internationaux qui viennent faire des démonstrations souvent et qui peuvent, en dehors du tournoi, être confondus avec des femmes.
Oui. Alors, il est vrai aussi qu'il y a des sports qui sont attribués plus facilement aux homos, parce au patinage artistique, par exemple. La danse, qui est un sport aussi. Moi, j'ai toujours dit, hein, la danse, quand on dit que les danseurs sont des gens efféminés, faire de la danse classique, ne serait-ce que de la danse classique, par rapport aux critères habituels, il faut quand même être assez costaud déjà, bien faire charpenter. Il faut être à la fois capable de sourire et tout en portant des poids quand même, en recevant la danseuse dans les bras, etc., etc. C'est quand même pas un sport de tapette justement, comme on pourrait le dire, la danse.
Non, c'est juste que il faut plus de sensibilité pour être danseur. Il y a une partie artistique qui n'a rien à voir avec une virilité un peu brutale que nécessitent certains sports.
Comme le rugby, par exemple.
Voilà, mais il y a des homosexuels dans le rugby. Ouais. Il y a d'ailleurs une super équipe à Lyon.
On connaît bien aussi.
Voilà, que vous connaissez aussi. Donc, les Rebellions, ouais. Qui font leur tournoi en même temps
que nous. En même temps que vous,
ouais. Voilà, donc, et on est très proches les uns des autres.
Ouais.
Je dirais que la virilité n'a rien à voir avec l'homosexualité. C'est la problématique du genre et des clichés.
Hein, absolument. Dans l'absolu, un monde idéal ferait qu'une personne homo pourrait par exemple jouer dans un club de foot sans aucun problème. Ça devrait être comme ça.
Ça devrait être comme ça.
Mais dans l'absolu, une personne de couleur, par exemple, reçoit aussi des insultes racistes, comme un homo recevra des insultes homophobes automatiquement.
Les homosexuels seront loin d'être les seuls discriminés.
Hein. Mmh. Je pense que... Dans le sport, notamment, malheureusement.
Malheureusement.
Mmh. Voilà.
Mais les super bons footballeurs blacks sont beaucoup moins embêtés que qu'un petit maghrébin qui fait de la danse.
Oui. Alors.
Donc le racisme ou la discrimination. Et pas forcément lié à une activité particulière, c'est lié juste est-ce que on est dans les schémas collectifs à sa place. Mais ça veut dire quoi à sa place? Moi, si j'ai envie de faire du ping-pong et du bridge, je fais du ping-pong et du bridge. Chacun son choix. Et s'il y a une femme qui a la puissance musculaire et qui aime ça, qui veut être, je sais pas moi, débroussailleuse. Peu importe, quoi. Il n'y a pas de règles à respecter. Il faut juste respecter les gens et ce qu'ils ont envie de vivre. Et voilà,
c'est en partant quand même de ce postulat, les clichés de genre, les stéréotypes, etc., que des personnes se sont regroupées pour créer des fédérations, d'abord des clubs, puis des associations, puis des fédérations sportives LGBT.
Oui.
Voilà. Alors,
ça fait presque une bonne quarantaine d'années qu'il y a des fédérations qui se sont créées.
Oui. Il y a eu les premiers Gay Games d'ailleurs aux
États-Unis
en 86.
San Francisco, 86. La natation qui était un des sports phares du lancement de ces mouvements-là. Ces mouvements-là qui étaient vraiment des mouvements de contestation pour avoir sa place, pour avoir le droit d'exister en faisant du sport. Aujourd'hui, tous les mouvements LGBT sont extrêmement ouverts à toutes les pratiques de tout le monde. Et il y a de plus en plus, heureusement, d'hétérosexuels qui viennent participer. Parce que c'est d'abord le sport amateur. Voilà. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de jugement sur qui fait quoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Tout le monde pratique, c'est du sport amateur.
Voilà, alors justement, c'est un des aspects du sport amateur tel que développé en tout cas par les associations LGBT, sur lequel on est souvent revenu, parce qu'il y a à faire une différence effectivement avec les sports compétition, ou en tout cas ou professionnels, où la compétition a une importance majeure, et les sports amateurs. Bon, dans certains sports amateurs, quand même, la compétition aussi est importante. Mais on en parlait souvent, mais le sport LGBT va transcender ce genre de choses, en fait. C'est pour se faire plaisir avant tout. C'est pas pour dire je suis le meilleur, je suis le plus fort.
Attention, le sport amateur, c'est pas de la non-compétition. Il y a plusieurs niveaux pour que tout le monde puisse participer et concourir à un niveau où il se fait plaisir. Dans la pratique de son sport. C'est une vraie compétition. Oui, oui. Il y en a qui se battent comme des diables sur les terrains, mais ce n'est pas une question de niveau. C'est-à-dire que tout le monde, même des gens qui ne sont pas très doués dans leur discipline, ont un niveau pour jouer contre des gens qui ne sont pas non plus très doués. L'excellence n'a pas une meilleure place que le plaisir de jouer. Voilà. Et en plus, ça permet de voir des gens qui jouent bien mieux que soi. Et c'est l'objectif. Ça se rapproche plus de l'esprit Coubertin, on va dire, des Jeux Olympiques.
C'est de participer.
Voilà, l'essentiel, c'est de participer. Mmh. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que dans tous les tournois LGBT, y a différents niveaux pour que tout le monde puisse trouver une place où il a plaisir à pratiquer son sport.
Mais par exemple, il y a des... En prenant spécifiquement le sport LGBT, même indépendamment du sport amateur, il y a quand même des passages qu'on n'imaginerait pas dans des sports traditionnels ou dans des compétitions habituelles. Par exemple, la mixité. Est-ce que, par exemple, Cargo pratique la mixité? Est-ce que dans l'équipe de foot, par exemple, de Cargo, si une fille veut faire du foot avec les garçons, elle peut?
Oui.
Ce qui ne sera pas le cas, on est d'accord, dans les compétitions où il y a le sport masculin, le sport féminin, et on n'a pas d'équipe mixte. Donc déjà, le sport...
Pas d'équipe mixte en fédéral. Même au niveau LGBT... même des très gros tournois internationaux, même les tournois, les gay games ou les out games, pour eux, c'est difficile de gérer le transgenre. Il faut faire un choix, un moment, pour concourir dans un niveau où on a envie de concourir. Il
n'y
a pas, assez de personnes transgenres qui pratiquent le sport pour faire des compétitions que transgenres. Et en plus, pour connaître certains cas, ils ne souhaitent pas forcément être mis sur une catégorie à part.
Oui, c'est vrai que j'allais venir aux thématiques trans, parce que c'est des thématiques qui ont pris un peu, à juste titre d'ailleurs, de l'importance ces dernières années dans les revendications LGBT en général. Et je voulais savoir si justement Cargo était ouvert à cette thématique-là, thématique trans.
Ben, on est ouvert, on est compréhensif, on est ouvert à tout le monde. On n'a pas été confronté pour l'instant à des demandes.
Il n'y a pas, oui, d'accord.
Mais
il n'y a pas de transphobie, par exemple. On ne pourrait pas vous accuser de transphobie.
Ben, c'est difficile dans le sport de ne pas être jugé à tous les niveaux. Je peux pas, enfin, je m'exprime pour Cargo. Ce serait certainement pas le cas, en tout cas. Il faut de la place pour tout le monde.
La mixité, en tout cas, est admise, donc, dans les équipes de foot, par exemple. Les garçons peuvent jouer ensemble.
Même dans les compétitions.
D'accord. Alors, c'est très bien. Justement, c'est ce qui fait quand même la différence par rapport à toutes les, toutes les fédérations sportives en général.
Problématique n'est pas tout à fait la même non plus.
Oui. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, si vous êtes reconnu aussi en tant qu'association sportive par des institutions.
Oui.
On y reviendra. Donc on a parlé de la mixité, donc ça, c'est je vais parler aussi de l'agisme, parce que le sport, souvent, est lié à la jeunesse. On est d'accord. On a l'impression que passé un certain âge, on ne peut plus faire du sport, ou alors s'amuser à en faire avec son petit chien en courant, en jogging dans le bois le dimanche matin. Mais est-ce que, par exemple, les équipes, on le sait, dans les fédérations sportives, il y a des critères d'âge aussi, il y a des poules en fonction des âges, il y a des au football par exemple, au rugby, il y a des catégories en fonction des âges. Est-ce que par exemple chez Cargo, moi la vioque que je suis pourrait venir jouer au foot par exemple. Pas pourquoi je parle de foot, mais si je sais pourquoi, parce que j'aime le foot. Ça, je fais partie des gens qui aiment le foot en plus. Mais donc, du coup, dis-moi, je voulais jouer au foot par exemple à Cargo, en ayant plus de 50 ans, on va dire.
Est-ce que... Bienvenue.
Voilà. Il n'y a pas d'âge, je veux dire. On peut être avec des équipes, il peut y avoir des jeunes de 20 ans et puis d'autres, et puis des moins jeunes de 60 ans.
Le principe du sport amateur, qui n'a même pas de rapport avec le sport LGBT, parce qu'on retrouvait ça dans des associations de la police nationale, des associations des hospices civils de Lyon, qui on joue toute l'année, où il y a une mixité d'âge, de niveau, c'est le sport amateur.
D'accord.
Donc, on n'a pas de spécificité sur le sujet. Après, il y a des questions de niveau, c'est-à-dire qu'en foot, il y a trois équipes, par exemple au volley, pareil, il y a trois équipes. Suivant les sections à Cargo, il y a des choix soit de mélanger pour avoir des niveaux un peu homogènes pour tout le monde, soit de faire des niveaux un peu différents pour que ça fonctionne, parce que dans les sports collectifs, le fonctionnement n'est pas toujours facile quand il y a des niveaux très disparates. Par contre, dans tous les sports individuels, ça pose strictement aucun problème. Et il y a des vieux comme vous ou comme moi qui ont des très bons niveaux et qui mettent des bonnes pilules à des petits jeunes qui débutent, mais qui nous la mettront plus tard.
Voilà.
Sans mauvais jeu de mots.
J'ai oublié de préciser, nous allons avoir un invité au téléphone. On va passer la musique. Tu l'as au téléphone déjà, Romain ? Non ? Après, on mettra la musique, ouais, mon petit Bernardo. On aurait peut-être dû s'entendre un petit peu plus avant. Hein, ça aurait fait moins improviser. Hein. Donc, du coup, on reviendra en deuxième partie d'émission sur le tournoi en lui-même.
Le Tigali,
voilà, pour finir sur le Tigali que vous organisez. Je voudrais finir sur Cargo. Continuer un petit peu avec Cargo et en terminer un peu avec Cargo. Vous rencontrez donc d'autres équipes de sport amateur. Comment ça se passe en général ? Vous avez eu des exemples où il y avait un ressenti homophobe vis-à-vis des autres en disant...
Il y a eu quelques cas qui sont quand même des cas très isolés. Donc on participe au championnat de la FSGT, qui est la Fédération Sportive Gymnique du Travail. C'est une des deux grosses fédérations en fait, qui gère le sport amateur au niveau national, hein, au niveau, c'est des fédérations qui sont multisports, qui sont amateurs, et c'est généralement, on joue contre des comités d'entreprise ou contre des associations de quartier et autres. Et ça se passe généralement très très bien.
Ça se passe bien.
Voilà, généralement c'est quand on trinque, qu'on explique à la fin du... quand on boit un verre à la fin de la partie, qu'on explique ce que ça veut dire. Et ben, comme il n'y a pas particulièrement de visibilité extérieure, ben, quand on joue quoi.
Et quand vous gagnez, vous disiez, est-ce que vous avez des expressions du style, voyez les PD, ce qu'ils peuvent faire, quoi, ils peuvent vous mater. Non, je rigole là, hein, quand même.
Non, mais ça arrive qu'il y ait des regards déplacés ou des gens qui sont peut-être parfois vexés d'avoir pris une rouste.
Par des homos.
C'est arrivé, mais ça reste des cas qui sont vraiment non significatifs par rapport à toutes les personnes qu'on n'a rien à faire. On fait du sport et puis point. Et puis heureusement, avec l'association Cargo, donne une certaine visibilité. Il y a plein d'associations LGBT qui se battent pour des choses souvent beaucoup plus graves que le sport, hein, on est bien d'accord. Mais ça participe, c'est un petit Lego de plus qui permet d'être visible et que les gens se disent « Ouais, en fait, on a fait un bon match, et vous étiez pédés, on s'en fout, quoi, on s'en fout. » Et donc c'est ça qui est important. Et c'est la petite victoire, on va dire, de l'association, c'est que... il n'y ait pas de discrimination à notre endroit dans le sport, parce que on est comme une autre équipe et voilà.
Alors vous parliez justement de fédération, donc c'était la FSGT.
FSGT, oui.
Vous êtes reconnu donc par des fédérations sportives amateurs, celle-ci en l'occurrence.
Et il y a la FSGL qui est la fédération sportive gay et lesbienne.
Et c'est à l'intérieur de ces deux fédérations que vous avez des compétitions, on va dire, des rencontres.
Alors,
sportives.
Alors la FSGL n'organise pas de championnat. Donc c'est une fédération plus qui permet aux associations LGBT d'avoir des contacts les uns avec les autres, les unes avec les autres, et de fédérer un peu ces associations pour avoir de la visibilité. Et ils organisent aussi tous les ans le tournoi international de Paris, qui est quand même une des références, la plus grosse référence en France.
D'accord.
Donc c'est une fédération qui est plus une, on va dire... On va pas dire une fédération politique, parce que c'est pas de la politique, mais c'est plus un regroupement d'associations. Et ils travaillent beaucoup aussi sur le fond des problématiques du sport LGBT.
Au niveau des adhésions, des adhérents à l'association Cargo, c'est en augmentation.
Depuis continuellement, 15 ans, ça n'a jamais cessé d'augmenter.
Exponentiel.
Donc malheureusement, même si on a des, on a une ville de Lyon qui est un soutien précieux de l'association, parce qu'aujourd'hui l'association Cargo, à quelques exceptions près, ne loue aucune salle. C'est un luxe.
La municipalité de Lyon vous aide, elle vous octroie
comme d'autres salles. Associations
oui, bien sûr.
Qui n'ont pas cette spécificité là et qui en plus dans les différents conseils municipaux je dirais qu'on est soutenu parce que tous les conseillers municipaux sont pas forcément pour ils voient le sport LGBT comme un ghetto on est vraiment soutenu pour être juste considéré comme les autres et d'être toujours présent, d'être toujours fidèle, d'être respectueux de ce qu'on nous prête. C'est important parce que toutes les associations ne le sont pas. Donc Cargo depuis 15 ans sur Lyon et particulièrement dans le 7e, parce que c'est quand même là que ça a commencé et qu'on a quasiment toutes les infrastructures qui nous sont prêtées sont dans le 7e, on est bien considérés. Et par les autres clubs du 7e.
Alors, vous proposez donc un panel d'activités sportives, de différentes donc disciplines sportives.
6 sections, oui.
Donc il y a du badminton, j'arrive jamais à le dire ça. Badminton, du football.
Badminton, oui.
Handball, en natation, squash, en gelise, qui est inscrit sur votre site, et du volleyball.
Oui.
Est-ce que vous arrivez à former, à recruter suffisamment dans chacune de ces disciplines, ou est-ce qu'il y en a qui ont plus de difficultés à recruter Ça existe, c'est qu'il y a quand même du monde, hein, je suppose.
Si
il y avait personne au football, il n'y aurait pas de section football.
Il y a deux raisons pour qu'une section existe. D'abord, pour qu'une section existe, il faut toujours qu'il y ait au moins 2-3 personnes qui soient motrices. Parce qu'aujourd'hui, Cargo, c'est 340 adhérents.
Ouais.
Ah oui. Et on peut pas être 5 membres ou 6 membres du bureau à piloter autant de sections sportives, etc. Donc d'abord, une section, elle existe parce qu'il y a des gens qui sont motivés. Il y a une équipe qui bosse, parce qu'il faut piloter, hein, c'est pas facile. Et puis ensuite, il y a des années où il y a un peu moins de volleyeurs, d'autres un peu moins de foot, et puis il y a un pic sur le badminton, et puis... Donc voilà. De toute façon, on est limité aux infrastructures dont on dispose.
D'accord.
Donc, c'est...
Donc vous avez des salles fermées. Faut boire un coup. Vous avez des salles fermées, et puis des terrains de jeu ouverts, comme pour le foot, par exemple, c'est en extérieur.
Oui. Tout à fait.
D'accord. Et la piscine, c'est où alors, la natation ?
Alors la piscine, pardon, pour le Tigali, c'est à Vaise.
Ouais.
Après, il y a mes yeux. On a eu la chance, la première année, d'utiliser la piscine du Rhône, qui était une expérience vraiment à part. Voilà. Alors qu'à Lyon, c'est difficile, les piscines. Mais Florent Ris, l'ancien président, est un grand bagarreur pour avoir des piscines.
Et vous avez des adhérents donc, qui participent à plusieurs activités sportives ?
Oui, il y a des adhérents qui sont sur plusieurs disciplines.
Bernard me fait signe, on a Romain en ligne, on va le prendre tout de suite, on va pas le faire attendre, puis on reviendra après sur Tigali.
À tout de suite alors.
Avant que notre invité s'étouffe complètement. Romain, est-ce que tu es là ? Oui, t'es là-bas, bonsoir. Ça se passe derrière. Bonsoir Romain, comment vas-tu ? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas eu l'émission, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, ça va, là, comme je l'expliquais à Bernardo, j'ai passé la journée à Annecy, dans le cadre du festival Transposition, le festival du film de minorité de genre et sexuelle d'Annecy, dont la deuxième édition commençait ce matin.
D'accord.
Et du coup, je faisais partie du jury de la sélection de courts-métrages. Donc ce matin, on a vu une dizaine de courts-métrages, et puis on va en discuter entre nous, et puis on va remettre des prix bientôt.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu la première édition l'année dernière. Je me souviens, nous avions interviewé au téléphone, nous avions eu la fondatrice du...
Katia.
Voilà.
Ouais.
Donc, mon cher Romain, une journée ANCENE pour toi. Et puis, la sortie, c'est aujourd'hui du mensuel Hétéroclite, du mois d'avril.
Exactement.
Quand tu es le rédacteur en chef.
Comme chaque premier mercredi du mois.
Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur l'actualité LGBT? Qu'est-ce qui viendrait? On parlera des élections après, parce qu'on va faire une petite thématique à part sur les élections. Parce que je sais que tu as des choses à dire, mais tu as toujours des choses à dire, Romain. Et toujours très intéressante, n'est-ce pas? Mais de quoi va nous parler Hétéroclite? Quels sont les sujets importants qu'on va retrouver dans le mensuel ce mois-ci?
Alors, par exemple, on parle de l'anniversaire des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence.
Oui.
Qui
est le couvent des Traboules.
Du couvent des Traboules, organisé par le couvent des Traboules. Voilà. Il y a deux couvents des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence à Lyon. Il y a le couvent des Traboules qui est le dernier né, et puis un peu plus ancien, il y a le couvent des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Là, c'est le couvent des Traboules qui organise un événement, une soirée, vendredi, au lavoir public. Donc le prétexte, en quelque sorte, c'est l'anniversaire du mouvement, puisque les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence est un mouvement qui est né à Pâques 79 à San Francisco et qui a ensuite essaimé divers couvents à travers le monde. Le premier couvent, c'est celui de Paris en 90. Et puis voilà, maintenant, elles sont présentes dans beaucoup de pays. Et donc elles font une soirée qui s'appelle Marie-Jésus. Donc il y aura un concours de la plus belle Marie et du plus beau Jésus. Donc venez déguiser, venez avec vos voiles bleues, vos couronnes d'épines, votre barbe bien taillée, etc. Et puis ce sera aussi l'occasion pour les sœurs de parler d'un événement qu'elles ont organisé en octobre à la Maison de vie de Carpentras. C'est un ressourcement, c'est-à-dire c'est un séjour destiné aux personnes qui vivent avec le VIH. Pour leur permettre déjà de prendre des vacances, de souffler un peu, de faire le point aussi sur leur santé, sur leur traitement, comment elles vivent le traitement, comment elles vivent aussi le regard des autres sur leur maladie, la sérophobie, etc. Donc c'est un événement assez important et elles espèrent aussi le faire connaître grâce à cette soirée-là de vendredi.
D'accord. Alors, il se trouve aussi que les sœurs sont venues chez nous il y a deux semaines, justement, pour nous parler.
Oui, on m'a déjà tout expliqué.
Voilà. Oh, non, mais c'est bien de rappeler. D'ailleurs, j'allais annoncer à la fin de l'émission la date, donc du 7 avril, vendredi, au lavoir public de l'anniversaire du couvent des Traboules, avec l'anniversaire de l'Ordre international des sœurs de la perpétuelle indulgence.
On parle aussi du festival Vue d'en face. Aujourd'hui, donc, il y a deux festivals de cinéma LGBT qui commencent dans la région, qui tombent un peu aux mêmes dates. Donc, le Transposition dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis le festival Vue d'en face.
À Saint-Étienne.
La 7e édition. Non, à
Grenoble. Ah oui, Grenoble. Saint-Étienne, c'est face à face.
Voilà, on peut confondre.
Saint-Étienne face à face, Grenoble, vue d'en face, c'est ça ?
Vue d'en face, oui.
Vue d'en face, d'accord. Ok, là, mais c'est c'est le plus ancien, je crois, de tous les festivals d'ailleurs.
De la région, oui. Oui, c'est ça, oui, puisque c'est la 17e édition, donc effectivement, c'est le plus ancien. En Rhône-Alpes.
Et qui commence maintenant aussi.
Bah oui, à l'heure où nous parlons, c'est la séance d'ouverture.
D'accord.
Un drame chilien qui s'appelle Plus jamais seul.
Alors,
ce week-end.
Tous les festivals.
N'hésitez pas à faire un saut à Grenoble.
À Grenoble, bien sûr. Tous les festivals LGBT de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire, désormais, puisqu'il faut l'appeler comme ça, la région. On a même, particularité, je dirais, c'est cette vue sucrée, financement, leur subvention, pas leur financement complet, heureusement, mais les subventions du conseil, par le conseil régional. Donc sous l'égide de Laurent Wauquiez, ça on l'a souvent évoqué, et je profite de cette transition habilement menée pour parler des élections, parce qu'il se trouve que justement la semaine dernière j'étais à Paris au forum des associations, au printemps des assos au Blanc Manteau, et il se trouve qu'il a lieu toutes les années à la même époque, et il se trouve que j'en ai profité pour interviewer des personnalités qui étaient présentes, soit des représentants, donc il y avait un représentant du parti de gauche, enfin de France Insoumise, on va dire, il y avait un représentant aussi il y avait des représentants du groupe écologique, EELV, et puis il y avait aussi des associations HES, Guélib, etc. Donc on s'est fait un plaisir de les interroger. Et puis sur les élections, par rapport aux thématiques LGBTI, évidemment. Mais toi, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu étais un petit peu désappointé, mais peut-être pas surpris par ce qui se passe dans cette édition-là des élections présidentielles. Quelle est la différence, par exemple, cette année de la campagne présidentielle par rapport à celle de 2012, par rapport aux thématiques LGBT ? et je pense qu'elles sont de taille.
Sur ces sujets-là, effectivement, je trouve qu'il y a une très grosse différence. En 2012, la question du mariage pour tous, notamment, est revenue fréquemment dans les débats, et c'était vraiment un marqueur du clivage de droite-gauche. On se rappelle peut-être que François Hollande, dans la campagne de François Hollande, il y avait ce fameux badge Engagement 31 qui avait été très mis en avant. C'était vraiment une mesure phare de son programme, un peu comme aujourd'hui le revenu universel, par exemple, l'est pour Benoît Hamon. Alors que, en 2017, ces propositions-là, on ne les entend pas du tout dans la campagne, quoi. Et à part le petit milieu des militants LGBT ou des gens simplement qui ont une conscience communautaire et qui sont vraiment intéressés par ces questions-là, il faut vraiment se battre pour les voir abordés dans la campagne. Et ce qui me rend encore plus chagrin, c'est de voir que ces questions-là, les rares fois elles sont abordées, elles le sont dans des médias comme Famille Chrétienne, par exemple, auxquels Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon ont chacun donné des interviews. Je crois qu'Emmanuel Macron s'est exprimé dans La Croix également, donc dans la presse catholique, et pourquoi pas, hein, je leur dénie pas le droit de s'exprimer, de vouloir toucher cet électorat-là, mais nous on les a contactés aussi, les trois principaux candidats pro-mariage pour tous, donc Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. On a essayé de les interviewer, de pouvoir leur poser des questions, et aucun des trois n'a daigné nous répondre personnellement. Et ce qui est grave aussi, c'est que les rares médias LGBT qui existent encore en France n'ont pas eu plus de succès que nous. C'est-à-dire que non seulement ils ont snobé Hétéroclite, mais ils ne sont pas rabattus sur Tétu, sur YAG, sur Unicorn Booty, ce qui reste comme média gay, et Dieu sait pourtant qu'on n'est pas très nombreux. Donc, on a un peu vraiment l'impression que ces questions-là ne les intéressent pas, ou alors il s'agit d'aller...
Vous mettre un peu sous le tapis, peut-être pour ménager aussi un certain électorat.
Oui, je pense, ouais.
Parce qu'on sent quand même dans leurs propos qu'il y a un ménage d'électorat catholique, notamment, oui. Que ce soit Macron, oui. Même Mélenchon, et par rapport à la PMA, et Hamon semble plutôt dire, il faut prendre en compte les propos, les discours de la Manif pour tous, qui font partie, en fait, de revendications qui sont entendables. On a presque envie de comprendre ça dans ce qu'ils disent. C'est une façon de ménager.
Hamon qui parle d'une diversité d'opinions. Au sein de la Manif pour tous.
Est-ce que pour toi, c'est un manque de courage politique ?
Oui, clairement. Et puis, encore une fois, le problème, à mon sens, c'est pas tant qu'il s'adresse à la famille chrétienne. Effectivement, on a le droit aussi de s'adresser à un média dont on ne partage pas les idées. Et d'ailleurs, quand on lit les interviews de Macron, de Hamon et de Mélenchon, ils ne reviennent pas en arrière sur leurs mesures, les mesures qui qu'ils défendent, la PMA, par exemple, les droits des trans, même la fin de vie, etc. C'est pas tellement qu'ils font des concessions programmatiques. Pour moi, c'est plus des concessions symboliques. C'est le fait, par exemple, qu'aucun des deux, et Macron non plus, aucun des trois, n'ose pointer du doigt l'homophobie intrinsèque de la Manif pour tous.
Oui, il y a un désir de ménagement, en fait.
Il y a un désir de ménagement et de ne pas nommer les choses. Et moi, je regrette beaucoup que ce terme d'homophobie ne soit pas employé, soit quasiment absent des entretiens des trois-là, alors que c'est quand même, pour moi, le cœur du mouvement, quoi. Et on a l'impression que, ils veulent caresser un peu cet électorat-là dans le sens du poil. Et moi, je trouve ça décevant qu'ils n'aient pas le courage à la fois de dire ces quatre vérités à la Manif pour tous, et puis aussi de s'adresser aux médias gays et lesbiens, quoi. C'est quand même symptomatique que les candidats jugent plus important de s'adresser à un électorat catholique qu'à un électorat gay et lesbien. Et ça nous renvoie aussi, nous, LGBT, à nos propres responsabilités. En 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait pour devenir en quelque sorte un lobby? Moi, j'ai pas de souci à employer le mot lobby. Je pense qu'il faudrait qu'on en soit véritablement un, et on ne l'est pas, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour donner une force politique incontournable?
En tout cas, ils te diront que chacune de ces formations politiques, par exemple France Insoumise, etc., et puis les autres aussi, ont des commissions LGBT.
Oui, tout à fait, oui. Et effectivement, si on regarde un peu dans les programmes, que ce soit Hamon, Mélenchon ou Macron, bon, ils ont des propositions à faire qui ne se valent pas toutes, à mon avis, notamment bon, celle de Macron sont vraiment bien légères, je trouve. Hamon et Mélenchon s'en tirent mieux, mais c'est vrai, ils ont quelque part dans leur programme, page 28, paragraphe 3, alinéa 4, des mesures qui nous concernent. Mais ça suffit pas, quoi. Je veux dire, il faut d'autant plus que bon, je sais pas si Macron sera président, mais Mélenchon et Hamon, ça me prend quand même mal parti.
Oui, alors qu'est-ce qu'ils ont à perdre finalement ? C'est ce que
voilà,
tu veux dire.
Et surtout, ce qui compte. Surtout quand on fait une campagne qu'on risque de perdre, ce qui compte, c'est non seulement les engagements, mais c'est surtout la façon dont on fait campagne et la façon dont on met en avant ces thématiques. À la limite, bon, ni Hamon ni Mélenchon ne sont présidents, ils ne seront jamais redevables de leurs promesses de campagne. Ils peuvent promettre ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils peuvent faire en attendant, quand même, c'est dans la campagne, c'est mettre en avant cette thématique-là, les imposer comme des thèmes de campagne importants.
Oui.
Et ils le font pas, ils le font mal. Quand ils abordent ces questions, moi, je trouve que c'est décevant, parce que la façon dont, dont ils ont répondu à la famille chrétienne en éludant le sujet de l'homophobie de la Manif pour tous, c'est pas la bonne façon de traiter ces questions.
On peut dire que, les associations LGBT vont-elles tirer, des leçons, je dirais, parce qu'on a beaucoup accusé les grandes fédérations LGBT, comme l'Inter-LGBT, de faire en fait la campagne du Parti Socialiste en 2012. Est-ce que maintenant, les associations devront en tirer justement des leçons par rapport aux politiques, justement ? Est-ce que les associations pourraient, par exemple, se dire que, toi, tu évoquais l'idée d'un lobby, se dire qu'on travaille peut-être avec les politiques, mais on ne peut pas en aucun cas soutenir... bon, certes qu'on soutienne un candidat qui est plus consensuel ou plus proche de l'humanisme, je dirais, des idées de gauche, etc. Ça va de soi. Mais faire une campagne littéralement politisée, est-ce que les associations ne vont pas en tirer des leçons de ce qui s'est passé et de ce qui se passe actuellement en 2017 ?
Moi, je pense qu'il faut réfléchir durant le prochain quinquennat à la création, effectivement, d'une force politique, d'un lobbying. Alors, je sais que c'est, c'est un peu yaka faucon, hein. Je dis pas que c'est simple, et mais en tout cas, je pense que ce serait bien de poser la question sur la table, de se réunir autour d'une table, qui avait commencé un peu à faire en novembre 2015 les états généraux. LGBT, qui avait lancé des pistes, semble-t-il, assez prometteuses. Mais je pense qu'effectivement, il faut revoir notre relation aux politiques. Avec les difficultés qu'on a aussi. Hein, c'est vrai qu'il n'y a pas l'argent, on n'a pas l'argent, par exemple, de la Manif pour tous, qui est bénéficié de soutien financier beaucoup plus important que les nôtres. Enfin, ce ne sera pas simple.
Ça ne sera pas simple, effectivement. Bon, on peut espérer quand même dans le quinquennat qui viendra, on aura au moins la PMA qui sera légalisée. Alors, ce qui était... t'y crois pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Enfin, là, il y a une différence entre Mélenchon et Hamon. Quand j'ai interrogé les deux représentants de ces deux partis, quand j'étais à Paris, Mélenchon, la France Insoumise a un positionnement beaucoup plus universaliste et chez Hamon, beaucoup plus catégoriel. Hein, c'est, il y a deux écoles. La PMA, ça ne peut s'inscrire que dans l'évolution humaine, en fait, pour Mélenchon. Donc, pour l'avancée des droits des femmes, par exemple, mais de façon globale. Voilà. Et avancer sur l'homosexualité ou sur la PMA, c'est une avancée globale, quoi. C'est universaliste. Ça, c'est les deux différences que j'ai rencontrées un petit peu dans leurs propos. Et puis, voilà, on verra bien ce que ça va donner, de toute façon.
J'ai eu le sentiment que sur ces questions-là, la position de Hamon et de Mélenchon était assez proche. Comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est celle de Macron qui me semble beaucoup plus faible. Parce que sur le mariage pour tous, bon, il dit qu'il veut pas revenir dessus.
Ouais.
Très bien, mais bon, voilà, c'est un non-recul, c'est pas une avancée.
Ouais.
Sur la PMA, il nous fait un peu du Hollande, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'il y est favorable. On se rappelle que en 2012, Hollande avait dit qu'il y était favorable, mais il n'avait pas inscrit dans ses promesses de campagne. Ce qui lui avait permis un peu de jouer sur les deux tableaux, de laisser entendre qu'il n'était pas contre, mais en même temps, pendant tout le quinquennat, on nous a dit non, mais c'était pas une promesse de toute façon. Enfin bref. Et puis, Macron dit qu'il attendra l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, avis qu'on attend depuis 4 ans.
Donc,
à un moment, ça commence à bien faire. Quoi. Normalement, cet avis doit être rendu au printemps. Ça a été maintes fois annoncé, maintes fois repoussé, donc je ne sais pas si celui-ci sera la bonne. Mais Macron dit aussi que non seulement il va l'attendre, cet avis, mais en plus il se conformera à ce que dira le Conseil consultatif national d'éthique.
Donc on ne se mouille pas.
On se mouille pas, et puis c'est surtout, à mon avis, une façon de se défausser de ses responsabilités d'élu, parce que dans Conseil consultatif, Comité consultatif national d'éthique, le mot important c'est consultatif, c'est-à-dire que c'est pas ce comité n'a pas pour vocation il a pour vocation d'éclairer le débat public et d'apporter un avis, mais il n'a pas vocation à s'imposer aux décideurs politiques. Pour moi, c'est une forme de lâcheté de ne pas assumer ses responsabilités d'élu. Et puis le point qui est le plus problématique, à mon avis, en termes de questions LGBT dans le programme de Macron, c'est quand même les droits des trans, parce que il estime, dans l'interview que lui avait qu'il avait accordé à Tétu le mois dernier, en février, je crois, il estime que la question est réglée, alors que la question du changement d'état civil, alors que même les associations trans qui avaient soutenu les dispositions de la loi justice du 21e siècle, et c'était pas les plus nombreuses des associations trans, hein, il y en avait quelques-unes, mais clairement c'était pas la majorité, même celle-là disait c'est bien, mais c'est un premier pas, il faut qu'il soit suivi d'autres. Et aucune association trans ne disait la question est réglée et on peut passer à autre chose. Quoi. Donc là-dessus, le programme de Macron me paraît très insuffisant.
Oui. Bon. Ben écoute, hein, dans quelques semaines, on verra comment chacun va tirer son épingle du jeu.
On peut quand même dire que il y a eu Mélenchon, Hamon, on a parlé de Macron. Je crois que c'est même pas la peine de parler des autres, parce que là, il n'y a plus du tout de...
C'est sûr, on reste quand même sur un prisme...
Si on continue à partir...
Après, il y a Poutou, je sais pas ce qu'il propose, Poutou.
Non, Poutou a un programme plutôt qui tient la route,
hein, ouais.
sur ces questions-là, donc voilà, effectivement...
Mais après, c'est vrai que le prisme reste plutôt à gauche. Bon, Macron, lui, il est entre deux chaises, on dira. Et puis, voilà, c'est vrai qu'après, le reste du prisme politique, bon, on connaît les positions Fillon, on connaît les positions du Front National. Voilà. Bien, et bien, qui ne sont pas très donc favorables. Hein, ça peut revenir, par exemple, à la politique de Wauquiez dans la région Rhône-Alpes. Ça donne un peu une idée de ce que pourrait être la politique de Fillon s'il était élu. Donc, du coup, hein, je vais te laisser, Romain. Je ne sais pas si tu parles dans l'hétéroclite du tournoi du Tigali qui va avoir lieu à Pâques.
Oui, bien sûr.
On en parle. Voilà. Donc, tu as peut-être entendu, j'avais le président de Cargo avec moi.
Oui, je vous ai entendu tout à l'heure.
Voilà. Alors, merci Romain en tout cas d'être intervenu à nouveau.
Merci de continuer à m'accueillir.
Hein. Avec plaisir. Et puis, c'est le moment de découvrir le numéro d'avril donc, de Hétéroclite. Disponible partout. Voilà, on va dire
ça. Toutes les bonnes crèmeries.
Voilà, dans toutes les bonnes crèmeries. Merci Romain, très bientôt.
À bientôt. Bonne soirée.
Bonne soirée aussi. Donc je reviens à Étienne Rioux, on passera la musique à la fin, parce que du coup, tu peux couper le téléphone, oui, Bernardo. Voilà. Donc je reviens à vous, Étienne Rioux, donc président de Cargo. Alors on a parlé de l'association en début d'émission, maintenant on va parler du tournoi en lui-même. C'est un tournoi qui a lieu tous les 2 ans à Lyon, un tournoi donc de sport LGBT, avec des disciplines, celles dont on a parlé, qui sont représentées à Cargo, il y a d'autres disciplines.
Les six disciplines de Cargo. Le badminton, le foot, le volley, le hand, le squash et la natation.
Et du coup, comment ça se passe? Alors tous les 2 ans, il y a des personnes de toute la France qui viennent ici à Lyon pour participer.
Ah ben, plus que ça, quand même.
Oui, même au-delà.
Au début, les premières versions de Tigali étaient uniquement badminton-volley ensuite, qui sont quand même les deux sections sportives qui mobilisent le plus de monde.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est sur les 6 sports de Cargo.
Mm-hmm.
Et donc là, les gens viennent de toute l'Europe.
Oui.
Donc, sur les 3 grosses éditions, parce que là, c'est la 3e grosse édition qu'on organise, donc avec tous les sports de Cargo, on arrive à un millier de participants,
oui,
et il y a un bon tiers qui vient d'étrangers.
Oui, donc là, c'est une bonne, bonne chose finalement. Il y a du monde, et en plus il y a du monde de Tigali reconnu, quoi.
Tigali a été, on va pas dire inventé, c'est un peu grand, parce qu'on fait que faire comme les autres. L'organisation de Tigali à Lyon, ça s'est fait parce qu'on faisait des tournois en permanence à l'étranger.
D'accord.
Donc il y a un moment, c'était un peu à notre tour d'organiser, de recevoir les gens qui nous reçoivent à Berlin, à Bruxelles, à Londres, à Barcelone. Voilà, il y a des tournois dans toutes les grosses villes.
D'accord.
À Paris, évidemment.
Mm-hmm.
Donc il fallait aussi que ben, Lyon ait son tournoi.
Oui.
On s'est dit, zut, on aime bien notre ville.
Ouais.
On aime bien notre ville. On a une ville qui
Paris en France.
On a une ville qui nous soutient.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a des villes où c'est plus compliqué à organiser, je peux vous dire.
Oui, en plus, là, vous avez le soutien de la ville de Lyon.
On a un vrai soutien de la ville de Lyon, sans qui ça ne se ferait pas, hein, très clairement.
Ils vous prêtent des infrastructures, ils organisent pour l'accueil. Comment ça se passe, par exemple? Parce que quand même, un millier de participants, c'est les accueillir. Alors, vous
mobilisez... Là, alors, à Lyon, on a deux chances. On a, la première chance, c'est d'avoir une ville qui est dynamique sur les problématiques LGBT.
Ouais.
On n'est pas toujours d'accord, mais... Enfin, c'est des gens qui sont impliqués, qui sont à l'écoute et qui aiment les projets. Donc, ça correspondait bien. Donc, la ville. Et puis, on a quand même un milieu. J'aime pas, j'ai horreur de ce mot parce que, pour moi, c'est comme si c'était une secte alors que tout est...
Ouais. On peut dire une communauté, peut-être, ou des gens qui s'associent.
Et puis aussi des commerçants, quand même.
Ouais.
Voilà, qui nous encouragent, quoi.
Ouais.
Donc... donc les deux font que ça matche pas mal pour organiser ça.
D'accord. Mais c'est une grosse organisation quand même, parce que milliers de participants, des équipes de France et d'Europe.
Oui, oui, c'est une grosse organisation.
Faut pas se louper là.
On est une grosse équipe de 10 personnes à organiser ça. On met un an et demi à le mettre en place.
Oui, il faut organiser les matchs de poule, tout ça. Vous avez tout ça, vous?
Oui, ça, c'est les sportives, bien sûr. Donc ça, chaque sport gère un peu son tournoi.
Oui. D'accord.
Et puis, il faut surtout gérer l'infrastructure globale.
Mm.
Parce que là, par exemple, donc, le vendredi, le programme, il est très, très simple. Le vendredi après-midi, on accueille les participants.
Ouais, ça, c'est vendredi.
Donc, ça sera le 14 avril.
Ouais.
Voilà. Donc, toute l'après-midi. Et donc, on a eu la chance cette année de faire ça dans le hall principal de l'hôtel de ville.
Ah oui, c'est assez classieux.
C'est quand même sympa.
Ouais.
Voilà. Donc, après, il y aura un pot qui se fera rue des Petits Feuillants. À la Lousse, qu'on connaît bien. Et donc là, on l'a eu, mais donc toute la rue sera bloquée pour nous, donc ce sera une bonne ambiance là. Tout le monde peut venir boire un petit verre. Il y a entre 800 et 900 personnes qui vont circuler là le vendredi après-midi et soir. Et puis samedi quand même, parce que bon, c'est sympa le côté convivial, mais
il faut quand même partir aux choses sérieuses.
Voilà. Donc le samedi à 9h du matin, il y a quasiment tout le monde sur les terrains.
Ouais.
Donc pour ceux qui veulent se renseigner, donc, pendant l'accueil, il y a des programmes. Il y a des gens qui peuvent venir se renseigner sur s'ils veulent juste être visiteurs ou supporters.
Oui, parce que c'est ouvert au public, évidemment.
C'est ouvert au public, il n'y a aucune...
On peut venir assister au...
On est aucune discrimination pour les participants, on ne va pas non plus...
On va pas
faire le contraire pour ceux qui veulent venir nous voir. Mais il y a quand même 11 sites sportifs.
Oui.
Donc c'est un peu disséminé
sur toute
la ville de Lyon. De la piscine de Vaise, en passant par un immense gymnase tout neuf à la Doie, en passant par la Vivier Merle, le Petit Palais des Sports, la Gerland, enfin...
Ah oui.
C'est...
Vous allez s'aimer dans toute la ville.
Voilà, on est s'aimer dans toute la ville, grâce à la ville. Samedi, donc, des sports. Dimanche, encore du sport.
Deux journées sportives, alors.
Il y a deux journées sportives. Alors, tous les sports...
Voilà, on peut parler de compétition.
Le handball se passe que le samedi,
ouais.
Et le foot et la natation se passent que le dimanche.
D'accord.
Par contre, le badminton, le volley et le squash se passent sur les deux jours.
Alors, est-ce qu'il y a des prix, simplement? Est-ce qu'il y a des équipes premières?
Il y a des médailles.
Voilà.
Par contre, il n'y a pas de lot, il n'y a pas de... Il n'y a pas de prix.
En fait, on peut médailler du tournoi Tigali de Lyon.
Et il y a des médailles pour tous les niveaux.
D'accord.
Ce qui fait que on peut jouer au plus bas niveau du badminton et être médaille d'or.
Voilà. D'accord.
Chacun son niveau, chacun sa petite gloire, chacun son plaisir de jouer, de rencontrer d'autres personnes que ceux avec qui on joue d'habitude.
Ouais.
C'est un peu l'objectif des tournois internationaux.
Ça avant tout se faire plaisir, quoi.
Voilà, ça avant tout se faire plaisir. du sport amateur. C'est vraiment le propre du sport amateur. Et puis, le dimanche soir, il y a une énorme soirée.
Ouais.
La soirée de clôture. Alors, théoriquement, il ne faut pas en faire la pub parce qu'il n'y a pas de billetterie. C'est une soirée qui est privée.
Mm-hmm.
Donc, c'est uniquement de la prévente.
D'accord.
Et là... On a un peu bombé le torse, on a respiré un grand coup et on s'est lancé puisqu'on a réservé le transbordeur.
D'accord.
Donc voilà, c'est un peu couillu comme on dit, parce qu'on fait un spectacle.
Oui.
Donc, et puis on a trois DJ qui viennent mixer et donc on a loué tout le transbordeur.
Ah oui.
Voilà, on croise les doigts pour que ça se passe bien, pour le spectacle, pour la soirée, etc.
Oui, grande salle, le transbordeur, c'est sûr.
Voilà, donc le dimanche, veille de Pâques et si... Voilà. Donc les gens sont aussi conviés s'ils veulent venir. Il y a des places qui seront en vente pendant le tournoi et sur le site du tournoi.
Et voilà. Lundi, c'est la fin, tout le monde sort ses petits mouchoirs.
Lundi on a un partenariat avec le Novotel qui nous permet de recevoir quand même beaucoup de gens à des prix défiant toute concurrence. Et en plus, on fait le brunch chez eux, à la part Dieu, avant que tout soit démoli. Ça sera peut-être la dernière fois qu'il y aura quelque chose.
Oui, bah oui.
Voilà. Et donc, il y a 300 personnes inscrites pour le brunch.
Ouais.
C'est sympa quand même. Donc, les gens viennent avec leur valise, leur sac, ils ont leur train. Ou, ils partent, prennent l'avion. Ça s'étale sur 4 jours.
Ouais.
Et on a réussi à s'imposer sur le week-end de Pâques, parce que c'est un des rares week-ends de 3 jours qui est européen. Parce que quand on fait ça un week-end du 1er mai, c'est français.
Ben oui, bien entendu.
Voilà, donc d'avoir une petite place... à Lyon pour faire venir des gens de toute l'Europe sur un week-end de 3 jours. Les gens font volontiers un aller-retour pour un week-end de 2 jours à Paris. À Lyon, c'est plus petit, mais les gens se déplacent volontiers pour un peu plus de temps. Et donc on a réussi petit à petit à faire un tournoi qui compte après Paris.
Oui, bah tant mieux, c'est bien. C'est bien pour la ville de Lyon, c'est bien pour les LGBT, c'est bien pour la visibilité LGBT aussi.
Oui, c'est bien. Et puis en plus, on fait ça en même temps que les rébellions.
Voilà, c'est ce que j'allais. J'allais en parler.
Bah, je pouvais pas ne pas en parler parce que c'est nos amis. Il y a même un mariage entre les rébellions et Cargo.
J'en ai entendu parler.
J'ai pas cité.
Il y a vraiment des ponts qui se sont faits, plus que des ponts, plus que des passerelles. Depuis plusieurs années aussi, le club de rugby gay, gay friendly, les rébellions, organise l'Ovalion, le tournoi de rugby LGBT. Donc à Lyon, en même temps.
Le même week-end,
le week-end de Pâques.
Voilà.
Donc c'est, finalement, le week-end de Pâques à Lyon, c'est un gros week-end sportif LGBT.
Amateur LGBT. Oui, il faut mettre amateur dedans, parce qu'il n'y a pas que... Il ne faut pas être non plus dans un ghetto.
Sectaire.
Non, mais il y a des sports où effectivement c'est très gay, d'autres qui sont très mixtes.
Oui.
Et, que ce soit au rugby, au foot, au hand.
De toute façon, tout le monde peut, comme vous le disiez aussi, non seulement participer. Non, mais il ne va pas finir l'émission, je le sens. Donc tout le monde peut participer aux activités proposées par Cargo, même les hétéros.
J'ai entendu parler de ça,
les hétéros, t'es accepté. Ouais. Donc ce sont des clubs. Cargo est une association hétéro-friendly.
Il y a eu débat il y a 4 ans ou 5 ans dans l'association pour se dire est-ce qu'on change le nom.
Ouais.
Parce qu'on n'est pas gay. Alors déjà, il y a les lesbiennes qui disent gay, c'est un peu masculin comme appellation, même si dans les faits, ça l'est pas vraiment. Mais c'est chacun, voilà. Et puis, on n'est pas gay-friendly. On est plutôt hétéro-friendly. Dans la continuité, on est...
En fait, si quelqu'un veut venir chez vous, vous n'allez pas lui demander son pénigré d'une manière ou d'une autre.
Ah non, il n'y a pas de droit de passage, il n'y a pas de...
Donc n'importe
non, non.
qui.
Non, non.
Bien, et bien...
Il n'y a rien du tout de ce genre-là.
Oui.
Et surtout pas. Et puis, en plus, la plupart des les premiers hétéros, on va dire... J'aime pas mettre des gens dans les cases, mais c'est comme ça.
On est obligé.
Les premiers hétéros qui sont arrivés, ce sont des amis de gays qui sont venus, et puis ils se sont dit, non mais, en fait, c'est cool. C'est cool. Et puis ils sont venus après avec leurs amis, et puis bouche à oreille, c'est fait, et voilà.
C'est un peu comme Rébellion qui nous disait qu'ils avaient donc quelques personnes hétéros, qui disaient qu'ils avaient même été surpris par le niveau de jeu, finalement, que développaient les Rébellions, quoi, que c'était du vrai jeu, quoi, c'était du jeu de rugby.
Oui, et puis il y a un respect de fait, on va dire, entre les personnes, parce qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde non plus.
Enfin, oui, bien sûr.
Être réaliste, mais il y a un respect de fait qui est de principe en fait dans l'association. On y va parce qu'on a envie d'être tranquille et d'être respecté, sans en demander plus.
Hein. Ouais.
Donc, ben, la moindre des choses, c'est que ce soit que la réciprocité soit partagée.
Bien, ben, en tout cas, donc, le Tigali, on rappelle les dates. C'est donc en même temps que l'Ovalion des Rebellions, le Tigali.
Tout le week-end de Pâques, du 14 au 17 avril. Donc, c'est dans moins de deux semaines. C'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain.
Il y a un site internet d'ailleurs sur lequel on peut retrouver aussi la localisation des événements, compétitions sportives.
Tigali.com, c'est pas plus simple.
Voilà. Moi je mettrai les infos aussi sur les réseaux sociaux liés à l'émission. Et puis merci Étienne Rioux d'être venu nous voir. On vous souhaite surtout. Ça doit être stressant quand même avant le. Non, si vous êtes pas. Moi je serais stressé, moi je vivrais. Je dormirais plus si je devais organiser des trucs pareils.
Non, stressé, non, parce que ça fait déjà le troisième gros qu'on organise. Donc le modèle il est à peu près en place. Un peu speed parce qu'on oublie des trucs, parce que machin, il faut courir un peu après les délais et les choses comme ça. Oui, ça par contre, oui. Très
ça donne de l'adrénaline, hein, c'est sûr.
C'est ça.
Mais en tout cas, excellent festival, qu'est-ce que je raconte, moi. Excellent l'habitude de recevoir
pour la soirée.
Ces festivals.
Pour la soirée, il y aura un petit côté festival avec le spectacle, avec un show, avec des tableaux divers et variés.
Excellent tournoi, surtout. Hein. Excellent tournoi, Tigali 2017. Et puis, merci d'être venu, en tout cas.
Merci Étienne de m'avoir Rioux, accueilli.
De l'association Cargo. Et puis, voilà. Merci Bernard d'avoir affronté tous ces périples pour venir jusqu'à nous.
Matou.
Après.
Matou dans son casque.
Oui, bah oui, après avoir été en plus. T'es convalescent, là, mais ça va mieux quand même. On peut rassurer nos auditrices et nos auditeurs.
Heureusement que t'es pas éclopé, toi, parce que sinon.
Oui, ah bah oui, voilà, bah ce serait. On ferait un trio, là, parce que Étienne, lui, il a failli nous lâcher pendant l'émission, mais bon, c'est pas grave. Bien, merci Bernard, merci Étienne, à la semaine prochaine.
Merci
et puis là, du coup, je sais que tu avais amené des musiques, mais on va pas les passer, on n'aura déjà pas le temps, on va juste mettre un petit morceau de Queen, le Freddie Mercury, We Are the Champions, on n'a pas pu s'empêcher, je sais que c'est un pensif, mais on va finir l'émission avec ça, si Bernard veut bien. Bernard.
Et avant les champions.
We Are the Champions, on veut bien chanter, mais j'ai pas la même voix que Freddie. Mistakes I've made a few. I've had my shells and kicks in my bed. And I need to go on. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. It's been no bed of roses.